Les chroniques du vivant de Corinne.
Nuisibles, vous avez dit nuisibles. Bonjour à toutes et à tous. Ils sont traqués quasiment toute l'année, de jour, parfois même de nuit, et ne bénéficient donc d'aucun répit. Ils sont chassables à volonté, souvent dans des conditions terrifiantes et sans aucun quota. Mais n'est-ce pas effacer leur utilité et leur rôle dans nos écosystèmes? Vous l'avez compris, nous allons parler de nuisibles. Oups, depuis 2017, il faut dire ézode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, dont la liste est renouvelée tous les 3 ans. Actuellement, 4 mammifères et 5 oiseaux y figurent. Le renard, la fouine, la martre des pins, la belette d'Europe, la pie bavarde, le corbeau-freux et la corneille noire, le jet des chênes et les tourneaux sans sonner. Pour évoquer ce sujet, je reçois aujourd'hui Yolaine Delabigne, administratrice de la Société nationale de la nature, administratrice aussi et porte-parole de l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages, fondatrice des rencontres des intelligences animales et du site internet L'Animal et l'Homme. Yolaine est en outre écrivaine et autrice de plusieurs ouvrages, dont Mon année zéro souffrance animale, que je suis en train de lire, Les secrets de l'intelligence animale, L'animal est-il l'avenir de l'homme, L'animal médecin, L'animal parent, qui regorge de précieux témoignages de spécialistes. Bonjour Yolaine.
Bonjour. Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Bonjour, je n'ai rien oublié, je sais que vous avez été aussi chroniqueuse, journaliste, que vous avez mis le corps à votre arc.
Absolument, on fait un métier passionnant, alors du coup on fait plein de choses.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'ASPAS et sa vocation ?
Alors l'ASPAS, c'est l'Association de protection des animaux sauvages. C'est une association qui a été créée il y a 40 ans, dans les années en 80, par Alain Clément, qui était dans son jardin tranquillement et qui a vu passer une balle, une cartouche de chasseur tout près de sa tête, qui a eu très très peur. Et le lendemain, il a appelé ses copains et tout le monde lui a dit « Ah ben non, mais contre les chasseurs, tu peux rien faire, il n'y a rien à faire. » Donc il s'est dit « Ça, c'est pas possible. » Et donc il a monté une association qui a été la première, en fait, à travailler sur le juridique. Maintenant, tout le monde le fait et tant mieux. On est très imité par One Voice, la LPO, etc. Mais à l'époque, l'ASPAS a été la première à faire ça. Donc on a c'est un des grands axes de travail. On a un service juridique très important et on essaye de défendre les sans-voix, ces animaux qui sont mal aimés. Mmh. Donc en 40 ans, on a engagé près de 4000 procédures devant des tribunaux. Alors on a eu pas mal de victoires, hein, contre le déterrage des blaireaux, les tirs de loups, les battues aux renards, etc.
D'accord.
Donc ça, c'est notre premier axe important de combat. Et notre deuxième axe, où là aussi l'ASPAS a vraiment innové grâce à Gilbert et Béatrice Cochet, on a introduit en France ce qu'on appelle la libre évolution. C'est-à-dire que là, c'est un travail foncier. On achète des terres et là, on les laisse à la nature en libre évolution pour que la nature puisse être en paix. Et nous, on les protège des activités néfastes humaines, c'est-à-dire la chasse, la pêche, les pesticides, la circulation de moteurs avec la bétonisation de routes, l'exploitation forestière, etc. On laisse juste les amoureux de la nature venir se promener.
Oui, les gens
dans
peuvent quand même.
Hein.
Oui, les gens peuvent quand même venir se promener. Je suppose qu'il n'y a pas droit de cueillette ou de choses comme ça. Il doit y avoir des protocoles à respecter, non ?
Oui, voilà, il n'y a pas droit de cueillette. Vous n'allez pas venir avec vos enfants jouer au ballon et hurler en pique-niquant, des choses comme ça. Parce que voilà, l'idée, c'est de que la nature se sente bien et donc que vous vous sentiez bien avec elle et de réconcilier justement l'humain et la nature. C'est vraiment notre but, en fait. Vous savez, souvent on dit ah, les écolos, ils sont contre l'humain, mais pas du tout, pas du tout, au contraire. On est pour la réconciliation et la paix entre tout le monde.
D'accord. Et vous ne rencontrez pas trop d'opposition, parce que je suppose que le lobby de la chasse est influent aussi par rapport à tout ça, non ?
Ah bah forcément, c'est notre gros travail. Tout ça se fait On a énormément de bénévoles qui nous aident. On a des bénévoles formidables qui nous aident à ils vont dans les dans, sur les réserves, ils font des tours de garde. Quand il y a des chasseurs, ils parlent avec eux, ils leur expliquent, etc. Oui, je vous cache pas que c'est pas toujours facile, hein. C'est même difficile. Mais bon, à force, on y arrive, hein. À force, mais c'est un vrai travail, quoi. C'est un vrai travail de tous les jours.
Oui, vous avez réussi, je crois, à obtenir les terres d'un enclos de chasse qui était préservé, quoi.
Oui, vers Corvis Sauvage, c'est notre réserve la plus importante. Elle fait 500 hectares, donc c'est énorme.
Ah oui.
Donc ça a été très compliqué parce qu'en effet, comme c'était un ancien enclos de chasse, évidemment, les chasseurs ont pas trop aimé, mais ça, les choses commencent à se calmer, mais on a eu du mal. Mais je vous dis, on a un service juridique qui est très, donc on se fait beaucoup respecter parce que les chasseurs savent que nous, on attaque si on vient chez nous, si on tue des animaux chez nous, on riposte. Donc on l'a fait, ça a été très compliqué. Il y a eu vraiment 2-3 années très 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 difficiles. Là, on a un couple de gardiens qui font un travail remarquable. Et bon, petit à petit, les choses se mettent en place. Et puis, on a d'autres réserves. On a les deux lacs là, qui sont très différents, parce que c'est à Châteauneuf-du-Lac, avec des qui est plus petit, 60 hectares. On a aussi le grand Barry dans la Drôme, mais là, c'est plutôt de la montagne. Et puis, on a la Jane Goodall du Trégor, qui vient d'être renommée Jane Goodall. Donc, on est très fiers. En Bretagne, qui fait 60 hectares et qui est une rivière avec une forêt qui est très romantique et très belle.
Oui, ça commence donc à représenter un certain patrimoine. Tout ça, vous avez quand même pas mal d'hectares, hein?
Alors absolument, au total, là, on est à 1300 hectares de protégés et on a lancé une nouvelle action qui s'appelle les havres de vie sauvage. Là, c'est chez les particuliers.
Oui,
c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, 15 hectares et que vous avez envie de les protéger, nous vous aidons avec l'équipe de l'ASPAS, vous aide à signer un oré avec votre
voilà, une obligation réelle environnementale,
voilà.
C'est ça. Oui,
exactement.
Et ça peut, à ce sujet, c'est sur quelle durée ça peut aller, je crois, jusqu'à 90 ans, non?
Absolument, c'est 90 ans. Alors, ça fait peur un peu aux personnes, et je comprends, parce qu'on se dit, oh là là, 90 ans, c'est énorme. En même temps, nous, on essaye de se battre. Alors, si vraiment les gens ne veulent pas 90 ans, on discute avec eux, hein, c'est pas une obligation. Mais c'est bien, parce que 90 ans, ça laisse vraiment la paix à la nature pour longtemps. En fait, nous, on travaille vraiment sur le long terme. Si c'est juste se faire plaisir sur 10 ans, bon, la nature est tellement résiliente et extraordinaire que vous allez voir des choses formidables en 10 ans. Mais si on peut aider la nature, la soutenir et la protéger surtout à long terme, c'est comme ça qu'on s'en sortira en fait, face à toutes les agressions qu'elle
voilà,
reçoit.
Surtout aujourd'hui, oui. Et donc votre association est reconnue d'utilité publique depuis 2008?
Absolument. Et alors sa grande spécialité quand même, c'est qu'elle est 100% indépendante, ce qui est assez rare en France. C'est-à-dire qu'en général, les associations bénéficient beaucoup d'aides de l'État et de subventions. Nous, on veut pas, parce que justement, on veut être libre. On veut pouvoir...
Indépendant, oui.
Voilà, on veut être complètement indépendant. Donc ça, c'est vraiment... Et donc, on a 1500 membres, on les appelle des membres chez nous, qui sont formidables, qui nous donnent de l'argent, des particuliers, des fondations, etc., pour nous aider à protéger la nature devant les tribunaux et dans des réserves.
Bon, alors, on va revenir un petit peu au sujet des ésodes, hein, des espèces nuisibles que... bon, susceptibles d'occasionner des dégâts, donc.
Et, absolument.
Voilà, je voulais savoir un petit peu comment se passait, comment on décide qu'une espèce est nuisible.
Alors en fait, en France, il y a un code de l'environnement qui prévoit que c'est le ministère de l'écologie qui est chargé de la chasse et qui fixe trois listes. d'espèces, donc on les appelle plus les nuisibles parce que ça faisait mauvais effet.
Ah oui, ça, ça revient bien au même.
On les appelle les ézodes. Oui. Voilà, comme ça les gens comprennent pas très bien ce que c'est, ça passe mieux. Et le préfet peut aussi décider de déclarer un animal ézode après avis de la des CFDCF, c'est-à-dire les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage. Donc évidemment, l'intérêt, c'est que ça permet de détruire l'animal, ce que vous disiez en introduction, en dehors des périodes d'ouverture de la chasse, par toutes sortes de systèmes, de la chasse normale, le piégeage, le déterrage, la vénerie sous terre, etc. Donc en fait, c'est terrible parce que vous avez des animaux qui sont chassés en fait tout le temps.
Ils n'ont jamais pas de répit, oui.
Voilà, ils n'ont jamais de répit, ils ne peuvent jamais élever leurs petits, trouver un partenaire pour fonder une famille, etc. Et s'il y a autant de dégradation dans la vie animale et si les animaux disparaissent les uns après les autres, hein, on parle toujours de la disparition de nombreuses espèces, c'est une des grandes raisons. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein, il y a malheureusement d'autres raisons, mais la chasse est très responsable de ça. Donc à chaque fois qu'il y a cette liste, évidemment, il y a une bataille entre les associations de protection de l'environnement, où nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, il n'y a aucun argument scientifique, il n'y a aucune base scientifique, mais ça, je vais vous le développer après, et on se demande, en fait, l'utilité, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Et d'un autre côté, les lobbies de l'agriculture, mais surtout de la chasse, qui sont hyper puissants, et qui, au fond, décident. Finalement, ce sont eux
c'est
qui
ça.
Décident.
C'est ça, je crois que c'est des commissions, ce sont des commissions départementales, hein, de chasse et de faune sauvage, je crois que ça s'appelle comme ça.
Absolument.
Qui décident, qui se réunissent et qui décident. Mais dans ces commissions, les chasseurs ont un poids terrible, j'ai l'impression, les chasseurs et les agriculteurs.
Oui, il y a quasiment que eux. Hein. Donc, en fait, et eux, ils ont intérêt parce que plus il y a d'animaux déclarés ézodes, plus ils ont d'animaux à tuer. Donc voilà. Alors, donc nous, si vous voulez, là où on a un vrai problème, c'est que il y a quasiment pas de chiffres objectifs. Il y a aucune expertise scientifique. D'ailleurs, c'est normal parce qu'en général, quand vous allez voir des scientifiques spécialistes de la biodiversité, ils sont contre. Ils disent tous que c'est n'importe quoi. Les motifs, alors les motifs officiels, c'est intérêt de la santé, de la sécurité publique, prévenir les dommages chez les agriculteurs, etc., etc. Donc en fait, vous avez plusieurs espèces. Il y a trois groupes de ces espèces, mais ce sont des animaux où en général, on n'a pas pu prouver réellement les dégâts, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un dégât? C'est déjà la première chose qu'on voudrait demander.
Oui.
Par exemple, je vais vous donner un exemple. La fouine, la martre des pins ou les tourneaux sansonnets, aucune étude ne montre qu'ils font des dégâts. On ne sait pas quels sont les dégâts qu'ils peuvent faire.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà un premier problème pour nous.
Pas de preuves tangibles.
Aucune preuve. Un autre problème que nous avons, c'est le manque de cohérence, parce que si on est cohérent sur l'histoire des dégâts, dans ce cas-là, nos espèces domestiques, alors pas trop les chiens, quoique, mais surtout les chats, nos chats que nous laissons toute la journée dehors, qui tuent, on sait aujourd'hui, énormément d'animaux, de batraciens, de reptiles, etc. Alors dans ce cas-là, il faut évincer tous les chats.
Il faut que les chasseurs tuent les chats.
Donc vous voyez, il y a un problème de cohérence, parce que eux font beaucoup plus de dégâts qu'un oiseau. Il n'y a pas photo. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, on a une vision très... entièrement anthropocentré, c'est-à-dire complètement en fonction de l'humain, qui n'a pas de connaissances scientifiques et qui ne prend pas en compte ce que chaque espèce fait dans cet immense écosystème, cette immense vie. Et donc chacun a un rôle très important qu'on ignore. Donc par exemple, je vais vous donner deux exemples, les renards ou les martres sont extrêmement importantes parce qu'ils mangent des rongeurs. Or, on sait que quand il y a trop de rongeurs pour les agriculteurs, c'est un enfer, parce que les rongeurs, pour le coup, font beaucoup de dégâts. Donc, sans renards, sans martres, etc., les agriculteurs seraient envahis par les rongeurs. D'ailleurs, pas mal d'agriculteurs commencent à s'en rendre compte et commencent à prendre du recul par rapport à ça. Et puis, autre chose très importante, on sait que les rongeurs sont très porteurs de certaines maladies, et notamment des tiques,
oui.
Les fameuses tiques qui sont la cause de la maladie de Lyme, qui est une maladie extrêmement grave. Et ça a été prouvé aux États-Unis, quand dans une région il y a des renards, on a beaucoup moins d'humains qui ont la maladie de Lyme. Alors on va dire, ah oui, mais le renard il mange des poules. Alors je vais vous donner un exemple, un chiffre quand même intéressant. Quand un renard roux mange une poule, il a mangé 500 campagnols parallèlement. Donc si vous voulez, il y a un moment où pour une poule contre 500 campagnols, il faut juste un peu réfléchir. Et le deuxième exemple sur l'utilité de tous ces animaux, c'est justement les corvidés dont vous parliez tout à l'heure, la corneille, la pie bavarde, etc.
Oui, dans l'intelligence, ce n'est plus à prouver.
Voilà, absolument, qui sont des animaux extraordinaires. Et ce sont des disperseurs de graines.
Mais oui.
En fait, sans eux, si vous voulez, il y a plein de végétaux, plein d'arbres, plein de fleurs, plein de végétaux absolument indispensables. Qui ne pourrait pas exister. Et oui. Y a quand même quelque chose qu'il faut que vous disiez à vraiment qui est important. Et que ça, parce que souvent, les gens disent, oui, voilà, ce sont des animaux. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à ça qu'on mange.
Mais oui.
Voilà, ça, on l'oublie. C'est grâce à tous ces animaux, à tout cet écosystème que nous avons des fruits et des légumes.
Oui,
donc, si on continue, en fait, de massacrer tous ces animaux, et les végétaux au passage, en fait, un jour, on mangera des pilules bleues, quoi. Comme dans les films de science-fiction.
Mais oui, vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi...
Et alors, si je puis me permettre, je voudrais donner juste un dernier argument que nous donnons aussi contre les fameux ésodes, c'est qu'en plus, c'est inutile. Alors, pour le coup, ça, c'est scientifiquement démontré. En fait, plus vous chassez, plus vous piégez, plus vous mettez de pression sur des animaux comme le renard ou la corneille qui sont extrêmement malins, plus ils se reproduisent.
Et oui, pour établir l'équilibre
exactement,
dans les écosystèmes, tout à fait.
Exactement. Une maman renard, si elle voit que c'est l'enfer autour d'elle, elle va faire plus de petits. Donc, en fait, il est prouvé qu'abattre les ésodes ne sert en rien à la soi-disant contre les dégâts, et qu'au contraire, c'est encore pire. Donc, il y a un moment, si vous voulez, il faut quand même se poser des questions sur ces fameux ésodes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, sans compter qu'effectivement, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, on a tendance à ne voir que les méfaits de ce qu'on appelle donc les ésodes, mais tous les bienfaits et l'utilité dans les écosystèmes sont balayés d'un revers de main. Les corvidés, enfin là je me permets de discuter carrément avec vous parce que je suis aussi passionnée de tout ça, les corvidés sont par exemple aussi des nettoyeurs de la nature. C'est-à-dire il y aurait aussi des propagations de maladies qui pourraient se faire s'il n'y avait pas des corvidés qui jouent leur rôle aussi. Et de partout, je crois. Hein. Je crois qu'à tous les niveaux, dans toutes les espèces qui sont classées comme nuisibles, on peut trouver effectivement l'utilité et le prouver, par contre.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nature, chacun a un rôle. Et c'est exactement ce que vous dites. Ils sont nettoyeurs. D'ailleurs, vous remarquerez quelque chose, moi, qui m'a toujours étonnée, c'est que dans la nature, il n'y a jamais de cadavres. Il y a plein d'animaux qui meurent. Hein. Il y a plein d'oiseaux qui meurent, de bébés qui meurent, etc. En fait, tout ça est très vite nettoyé. Il n'y a pas de déchets dans la nature. C'est les humains qui font des déchets. Mais dans la nature, ça n'existe pas. Et donc, les animaux, les charognards, donc en effet, les corvidés, les renards vont venir manger les corps. Et après, ce qui reste va être pris par des tas de petits...
les insectes et puis la faune du sol aussi.
Exactement, d'insectes qui vont nourrir cette terre d'une manière extraordinaire. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. Et c'est grâce à ça que les humains vivent. C'est grâce à cet immense circuit de vie, intelligence, de vie, génie de la nature. Et ce qui est très inquiétant quand on fait des choses comme ça, c'est qu'en fait, on ignore complètement les conséquences de ce qu'on fait. En fait, on n'en a aucune idée, et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, on a détruit, on a abîmé, et en fait, on est un peu, les scientifiques sont un peu paniqués parce qu'on ne sait pas très bien où on va. Et personne ne sait où on va. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des éco-sceptiques qui disent non, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans tous les sens, de sécheresse, d'inondation, etc. Donc, et on ne sait pas du tout comment prendre le problème, parce que... Et c'est ça...
Bien sûr, on est en train de détruire vraiment des cycles de vie, quoi. Quand on touche à la biodiversité, c'est nous-mêmes. De toute façon, on oublie que si les atteintes qu'on porte à l'environnement, c'est à nous qu'on les porte aussi, quoi. Voilà.
Ah, mais totalement, totalement. Là, par exemple, vous voyez, le loup est en grand danger, là, puisque oui. Le 2 décembre, il va peut-être être retiré de la liste des espèces protégées. C'est dramatique, ouais. Parce que les gens ne comprennent pas que, justement, contre les fameux sangliers, dont on parle beaucoup, on en parlera peut-être tout à l'heure.
C'est des régulateurs, oui.
Mais bien sûr, un loup, c'est d'ailleurs à Yellowstone, le fameux exemple de Yellowstone, hein, que si vous voulez, je peux le dire 5 minutes pour vos auditeurs, qui est très intéressant. Yellowstone, vous savez, c'est une réserve absolument magnifique aux États-Unis. Et sous la pression des agriculteurs et des éleveurs, surtout, on a éradiqué dans les années 30 les loups. Et à partir de là, sans s'en rendre compte, on n'a pas compris, il y a eu une explosion des herbivores qui ont finalement commencé à transformer le Yellowstone en désert parce qu'ils mangeaient toute l'herbe. À partir du moment où il n'y avait pas assez d'herbe, il y avait plein d'animaux qui ont disparu. Ça commençait même à attaquer les rivières, etc. Sous le lobby des écologues et des scientifiques, on a fini par réhabiliter les loups et à relancer des meutes de loups dans les années 70. Ça a coûté encore une fortune. Et là, Yellowstone est revenu. C'est-à-dire que les loups font leur travail de régulateur et empêchent qu'une population soit excessive. Et là, on est complètement dedans. Trophique. C'est-à-dire qu'on a plein d'animaux qui ont disparu et par contre, on est envahi par les chasseurs parce que, par les sangliers, enfin, par les chasseurs aussi.
C'est un lapsus fort révélateur.
Mais les sangliers, il y a d'autres problèmes aussi sur les sangliers, mais les sangliers, si on laissait un peu les loups, c'est les seuls animaux qui peuvent tuer des sangliers, on aurait moins de problèmes. Mais alors là, c'est très... Pareil pour le lynx. Tous ces prédateurs qui sont extrêmement utiles et qu'on a un mal fou à réhabiliter et à défendre.
Oui, bien sûr. Je voulais vous questionner au propos des méthodes de piégeage pour les ésodes qui sont... Je pense que les auditeurs, quand même, ont besoin de savoir, même si maintenant, il y a 80% de la population qui est contre le piégeage et la vénerie sous terre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Parce que c'est vraiment, je pense, des méthodes indignes du genre humain.
Alors oui, alors il y a deux choses. Hein. Les pièges, c'est affreux. Alors vous avez toutes sortes de pièges. Hein. Il y a des pièges à lacets, il y a des cages, il y a des pièges à collets. Donc il y a des pièges souvent qui sont non tuants. Donc ça, je pense que c'est les pires parce que en fait l'animal se fait prendre la patte dans une espèce de mâchoire qui lui détruit la patte. Donc évidemment un animal sauvage il va se débattre, souvent il se ronge pour se couper la patte et essayer de fuir, il se débat, etc. Il y en a qui meurent pendus, enfin
ces pièges là sont encore autorisés?
Absolument. Alors, la plupart sont autorisés et ceux qui ne le sont pas sont quand même utilisés encore. Alors, c'est là où j'arrive vraiment à l'eau. Enfin, les deux gros problèmes du piégeage, en dehors du fait que ce soit en effet des mœurs d'un autre temps, hein. Moi, je trouve qu'on est au Moyen-Âge, là, quand même. Hein. On n'est pas en 2024.
Oui, tout à fait.
C'est incroyable que ce soit. Mais alors, d'abord, il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire que vous avez des tas d'animaux comme les blaireaux, mais vos chats, vos chiens peuvent très bien se faire piéger. Il y en a très régulièrement. D'ailleurs, les vétérinaires le disent et c'est l'horreur. Vous regardez des photos, c'est absolument épouvantable. Donc ça, c'est un premier problème. Mmh. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de contraintes vis-à-vis des piégeurs. Et la loi, c'est n'importe quoi. Si vous voulez, normalement, les pièges sont censés être visités chaque matin. La mise à mort des animaux est censée intervenir tout de suite pour éviter la souffrance. On doit regarder s'il n'y a justement pas des animaux qui ne sont pas des ésodes, or il y en a plein, et qui doivent être relâchés, etc. Et,
dans quel état
et en fait, c'est pas du tout respecté. C'est-à-dire qu'en fait, les piégeurs ne vont pas tous les jours vérifier leurs pièges. Souvent, en fait, ils les mettent en plus dans des zones difficiles d'accès, donc les animaux peuvent agoniser pendant des jours, le piégeur n'est pas au courant. Il y a souvent des installations qui sont mal faites. Il y a quand même des poses de pièges qui sont interdits, comme le piège à mâchoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui existe et qui normalement est interdit. Il n'y a pas de contrôle à l'achat. Ça, c'est quand même incroyable.
Ah
on
oui.
peut acheter
Ah
des
oui, en
certains.
effet, oui.
Il n'y a pas de contrôle à l'achat. Et puis, le public, justement, vous parliez du public, est très, très mal renseigné. Normalement, la pose de piège est censée être déclarée à la mairie du domicile du piégeur. On doit signaler qu'il y a un piège sur le terrain, justement, pour faire attention. Les zones piégées, là aussi, doivent être signalées d'une manière extrêmement apparente. Une fois de plus, le piégeur doit y aller tous les jours, etc. Et en fait, c'est pas vrai, c'est pas fait, il y a quasiment pas de contrôle.
Il n'y a
Qu'est-ce
pas de
que, mais c'est
contrôle
très
là-dessus.
compliqué. Ben oui, c'est très compliqué d'aller contrôler ça. Et si jamais vraiment il y en a un qui se fait piéger, c'est le cas de le dire, bon, il a une amende de 135 euros. Donc, si le piégeur qui piège depuis
Oui.
6 ans ou des années, bon, s'il a 135 euros un jour,
Oui.
c'est pas un drame.
Il s'en
Donc, en
moque un
fait, c'est
peu,
quand
oui.
même n'importe quoi. Et une fois de plus, la France, qui est une très mauvaise élève dans énormément de domaines, ben, une fois de plus, on est parmi les pires, quoi. On a 150 000 piégeurs en France.
Oui.
On est le pays européen qui en avons le plus. Et voyez, en Bulgarie, ils en ont que 50. Donc on est vraiment un
Oui.
pays terrible,
On est
quoi.
hors
C'est
norme, mais pas dans le bon sens.
ah bah ça c'est clair sur la vie, déjà sur la biodiversité d'une façon générale, mais sur les animaux, les Français doivent faire beaucoup d'efforts encore,
D'accord.
quoi. C'est pas On
Et
a fait beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup
oui.
d'évolutions. La preuve, votre émission, c'est formidable. Je pense que ça n'aurait pas pu exister il y a 20 ans, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire.
Oui, certainement, oui. Et bon, j'avais une petite remarque en fait à faire aussi, parce que on n'a pas trop le temps d'évoquer la vannerie sous terre, qui est une abomination et qui n'est toujours pas interdite, je pense.
Alors, elle n'est pas interdite, mais heureusement, elle est en baisse
En
parce
nette
qu'il y a quand même
régression,
beaucoup de pression. Voilà,
oui.
et ça, c'est une bonne nouvelle, oui, parce que c'est alors là, c'est le pompon, là, c'est vraiment l'horreur. Ouais.
Ah oui, il y a eu des vidéos qui ont circulé, qui est bon,
Ouais.
enfin moi, qui me font encore faire des cauchemars, enfin. C'est voilà. Et puis bon, je pensais que parler de la place des animaux dans les écosystèmes, c'est une chose, mais au bout du compte, ne pensez-vous pas que l'humain, dans son arrogance, a tendance à oublier que les êtres vivants sont des êtres sensibles, tout simplement?
Alors, sont des êtres sensibles, sont des êtres aussi d'une immense intelligence. Moi, c'est là-dessus que je
C'est
travaille, c'est ce
ça.
que vous avez dit en début de. Et ça,
Oui,
c'est
je
important de le
mettrai d'ailleurs
savoir.
la référence un petit peu de vos ouvrages, parce que vraiment c'est passionnant, hein, sur la page de RPH.
Merci beaucoup. Oui, parce que c'est important d'expliquer aux gens que l'être humain est incroyablement intelligent. Nous avons une intelligence abstraite fabuleuse. Nous allons sur la Lune et nous avons inventé l'ordinateur. Mais les animaux ont une intelligence que nous n'avons plus, qui est une intelligence de la terre, de la saison, de justement de la biodiversité. Et ils nous sont très utiles. On découvre des choses formidables sur des animaux. D'ailleurs, ce qu'on appelle la bio-inspiration. C'est
Oui,
toute une industrie qui imite les animaux
tout à
pour
fait.
créer des avions.
Et oui, Gilles Boeuf en parle très bien de ça, le biomimétisme.
Exactement,
Oui, c'est.
exactement. Et donc toute cette intelligence extraordinaire, nous ne pouvons pas nous en passer. Et donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'en massacrant notre environnement, on se massacre nous-mêmes à long
Bien
terme.
sûr.
Qu'allons-nous laisser comme monde à nos enfants? Franchement, il y a des moments, ça fait flipper, parce qu'on se dit les pauvres. Alors après, on nous dit ah oui, les jeunes vont pas bien, il y a des éco-anxiétés. Mais sincèrement, on les comprend. C'est terrible quand même. Quand vous avez aujourd'hui 14 ou même 20 ans, vous vous dites quel univers vont-ils me laisser, mes parents? Et c'est là où je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un effort, quoi.
Oui, c'est clair. Ben, nous allons terminer sur ces jolies paroles, parce que c'est vrai qu'il serait plus que nécessaire que dans les écoles, il n'y ait pas que les lobbies de la chasse qui passent, ou de la
Oui,
viande
je suis
notamment,
d'accord.
et voilà,
Ouais.
et qu'il y ait vraiment des gens qui œuvrent pour la biodiversité, des gens comme votre association aussi.
Les écoles et les parents, hein, déjà,
Pour
dire
aussi, bien sûr.
à un enfant que non, on n'écrase pas une
Tout
fourmi,
à
qu'on
fait.
n'arrache pas une fleur, que c'est beau, qu'il
Oui,
suffit de les
bien sûr.
regarder.
Heureusement, il y a quand même des initiatives qui vont dans ce sens.
Oui,
Espérons qu'elles se
plein.
multiplient un petit peu.
Plein, absolument.
Je vous remercie, Yolaine, de votre
Un grand
intervention.
merci à vous, un
Merci
grand merci
beaucoup.
pour votre intérêt.
Bonne journée. Au revoir.
Vous aussi?
L'être humain a saturé l'espace vital de nombreuses espèces sur la planète. Et en à peine un demi-siècle, selon le WWF, près de 70% de la faune sauvage a été exterminée, essentiellement en raison de la disparition et de la dégradation des habitats naturels causés par les activités humaines. L'effondrement de la biodiversité est plus que jamais une réalité palpable. Alors, ne pourrions-nous pas accepter de partager notre terre avec les autres vivants qui la peuplent, au lieu de les pourchasser et de les détruire, sous prétexte qu'ils nuisent au rendement agricole, aux chasseurs, ou encore qu'ils sont une entrave à notre confort? Ne pourrions-nous pas, au moins, essayer d'envisager les bienfaits que nous rendent certaines espèces, au lieu de ne voir en elles que leurs méfaits? Lorsque je pense, par exemple, aux nuisances sonores ou aux fientes sur les voitures, je ne peux m'empêcher de me poser la question. Qui envahit le territoire de qui? Et que restera-t-il lorsque nous aurons détruit les espèces utiles aux écosystèmes? Probablement une grande recrudescence de virus, de maladies, de pandémies. Pensons-y. Chers auditeurs, je vous renvoie sur notre site RPH pour y trouver toutes les références des ouvrages et les liens vers les différents médias développés par Yolaine Delabigne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au mois prochain. À bientôt.